J'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Michael Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un illustrateur. Il a travaillé pour des magazines comme Étal Hurlant, Je Bouquine, Le Journal de Mickey, la collection de romans de science-fiction Présence du Futur. C'est aussi un auteur de bande dessinée. La série Prince Lao au Lombard, c'est lui, mais il a aussi beaucoup donné à la science-fiction, comme avec Suicide Commando, avec Charles Imbert, la série Des Blues avec Joël Houssin, ou Convoi avec Thierry Smolderen aux humanoïdes associés. Après une parenthèse dans l'univers de la publicité, il nous avait conté avec les trois tomes de Koralowski l'histoire d'un milliardaire du pétrole russe qui se retrouvait en tôle, un polar politico-financier à propos duquel toute ressemblance avec l'oligarque Mikhail Rodorkovski n'était pas complètement fortuite. Le voici de retour à la SF, une fois de plus avec une bien étrange histoire, L'éternité, le tome 1 de Québec de Philippe Gauclair, vient de sortir aux éditions Daniel Maguen et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Philippe Gauclair.
Bonjour.
Alors vous passez de la Russie au Canada, vous aimez les grands espaces ?
Ouais, j'adore les grands espaces. Et à l'origine, Québec, se passer en Yakoutie, en Sibérie. Et l'expérience de Koralowski d'en parler à propos de la Russie étant difficile, parce que c'est très difficile de parler de la Russie en ce moment de manière un petit peu libre, même en mode de fiction, j'ai tout déplacé au Québec parce qu'il se trouvait exactement la même situation géographique qu'en Yakoutie, c'est-à-dire un cratère météoritique d'impact très ancien, une région boréale, hyper boréale d'ailleurs, et une mine de diamants.
Alors justement, cette région, c'est la région Iyu-Ischi-Bay-James. C'est pas facile à dire quand on est journaliste radio et qu'on connaît pas forcément cette région. Je suis allé regarder moi-même. C'est une région que j'ai très envie de visiter, hein, c'est ce qui explique le lapsus, parce qu'elle est absolument magnifique. Il y a des décors incroyables. On est dans le grandiose du début à la fin.
Ah oui, et puis je pense que c'est assez loin, c'est-à-dire qu'on peut pas y aller en voiture. Quand on est si on est stationné à Montréal ou au Québec, on doit prendre un avion pour s'y rendre, parce que la route doit être très très monotone. Elle est toute droite. Si on regarde sur une carte, c'est quelque chose de, on peut s'endormir. Par contre, une fois qu'on arrive sur place, je crois qu'il y a une récompense.
Alors, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, c'est très très bleu, c'est très vert, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de forêts, c'est assez vallonné aussi à de multiples endroits. C'est une région qui couvre 1/5 du territoire du Québec, qui est située à l'ouest-nord-ouest du Québec. Je conseille vraiment à nos auditeurs de regarder sur une carte Iyu-Ischi Bay James, la Bay James, le prénom James. Hein, voilà, c'est pas facile. Alors, vous expliquez un petit peu le nom déjà, qui est assez hybride d'ailleurs, comme l'est l'administration de cette région.
Parce que il y a un mélange par rapport aux Premières Nations. Il fallait intégrer le nom des premiers occupants connus de cet endroit.
Avant, en l'occurrence, les Indiens Cris.
Les Indiens Cris, avant la colonisation, la première colonisation, puis la deuxième, puis la troisième maintenant qui arrive, puisque les territoires du nord du Québec sont en quelque sorte un territoire de prospection colossal. On a découvert des richesses minérales fantastiques dans tous les domaines, que ce soit de l'or, le diamant, l'argent, l'uranium, etc. Et les Indiens Premières Nations, qui occupent très 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 peu de territoire, sont là quand même pour défendre ce territoire de toute cette prospection et de tout cet extractivisme qui est en route.
Alors il y a effectivement, je suis allé vérifier, une mine de diamants qui s'appelle la mine Renard, qui a ouvert dans cette région depuis 5 ans du côté des monts Otiche, donc vraiment à l'endroit où vous situez votre récit. C'est cette mine-là qui a servi un petit peu de point de départ à votre récit ?
Oui, parce que j'avais empilé pas mal de documentation sur une mine de diamants en Russie, et puis j'avais trouvé ça très pratique d'aller jeter un œil sur ce qui se passait dans d'autres mines de diamants, et j'avais vu que cette mine au Québec était en train d'ouvrir, donc ils avaient une représentation et une documentation énorme, et je m'étais dit mais c'est formidable ça, et j'ai trouvé ça tellement formidable que j'ai tout déplacé à cet endroit. Mais j'ai un petit peu déguisé le nom, mais c'est effectivement si on est curieux et qu'on va sur le site de la mine du Renard, on va découvrir des choses assez étonnantes.
Et les Cris, les Indiens se sont élevés contre l'exploitation diamantifère.
Oui, ils ont été intégrés. Ça fait partie justement d'une expérience et dont j'ai profité en fait, puisque j'ai lu des documentations là-dessus. La direction de la mine a intégré un maximum d'autochtones dans les équipes de mineurs pour éviter justement tout débordement, peut-être les contenir aussi, et puis éviter de se prendre des reproches par rapport à la transformation de la mine. Alors il y a une promesse aussi par rapport à cette mine de Renard, c'est de remettre en état à l'issue de l'exploitation.
Oui, alors l'écrit, il faut spécifier aussi que c'est un peuple chamanique, donc qui pense que la terre appartient à tout le monde, que c'est un don de Dieu, hein, donc il faut la respecter et même la vénérer.
Absolument, c'est un bien commun. C'est si l'écrit invoque la protection de la terre, ça ne nous appartient pas. On est des observateurs de la nature. Et en ça, ils reçoivent pas mal. Enfin, ils défendent une certaine philosophie qui n'est pas spécialement le retour à la terre. On s'en fiche de ça. C'est au contraire, c'est à qui appartient la terre et qu'est-ce qu'on en fait. Et ça pose d'énormes questions justement. Sur l'extractivisme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gratte la terre, le sol, que ce soit pour le pétrole, pour le gaz, qu'est-ce qu'on fait?
Alors les cris, Philippe Gauclair, ils sont donc un peu moins de 15 000 hein, au dernier recensement. Ils sont très importants dans l'album. On apprend par des petits détails, parce que c'est pas du tout un album didactique, hein, mais par des petits détails, on apprend quand même pas mal de choses hein, sur la façon justement dont ils regardent la terre, dont ils regardent le milieu dans lequel ils vivent, dans la façon dont ils regardent les autres hommes, les blancs, pour faire simple. Et vous disiez tout à l'heure que certains cris avaient été intégrés dans le programme d'extraction minier. C'est le cas de votre personnage féminin principal qui s'appelle Nathan. Alors Nathan, c'est un personnage. D'abord, elle est très très belle, hein, donc félicitations pour le graphisme. Mais surtout, c'est un peu le lien, le chaînon finalement qui allie tradition et modernité, voire modernisme.
Complètement. J'avais ce personnage. Le personnage principal est il est prospecteur.
Il s'appelle Roy Cox.
Qui s'appelle Roy Cox. Il est prospecteur. On sait pas trop d'où il provient.
On commence à apprendre des choses à la fin du premier tome, mais on n'en dira pas plus.
C'est ça. Mais par contre, Nathan, on la présente et effectivement, elle est le point relais des différents groupes que je mets en place. C'est-à-dire qu'il y a les mineurs, il y a les gens de la mine, les travailleurs de la mine. Il y a les Indiens autochtones, il y a la police du Québec, la sûreté du Québec qui arrive pour sécuriser l'emplacement, parce que l'histoire raconte, c'est l'histoire d'une découverte qui va peut-être attirer la convoitise de plein de personnes, donc il faut sécuriser l'endroit. Donc on a des groupes humains qui existent. J'ai fait que prélever, en fait, de manière totalement factuelle, ce qui existe en ce moment au Québec avec les problèmes que ça génère.
Vous vous êtes rendu sur place? Vous avez discuté avec...
Absolument, j'y suis allé, mais j'y suis allé avant d'avoir décidé d'installer mon histoire au Québec. C'est-à-dire que j'y suis allé en 2016 et j'ai décidé de m'installer mon histoire au Québec en 2017. Donc je me suis souvenu de...
Il y a une réminiscence.
Ça, oui. Et je me suis surtout souvenu, effectivement, d'avoir discuté avec des autochtones à différents endroits et d'avoir ressenti l'incroyable impact même actuellement de leur historique de colonisation. On reste quand même avec des personnes qui sont pas totalement autonomes et qui aimeraient être délivrées de cette espèce de passé, ce passif qui est très 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 lourd. Je trouve c'est quelque chose que j'avais ressenti avant.
Alors on a brossé la toile de fond, Philippe Gauclair. Je voudrais à présent que nos auditeurs entrent directement dans le vif du sujet, directement dans l'album. Notre réalisateur Michael Goncalves a mis en ombre les trois premières planches. Hein, et déjà en quelques cases, on a deux atmosphères complètement différentes. Et c'est comme ça vraiment tout au long de l'album. On a des moments de grand calme, des moments où tout s'arrête, des moments assez contemplatifs, et puis des moments où tout s'accélère, souvent d'ailleurs sous l'action d'éléments naturels. Les premières cases, vous allez vous en rendre compte, sont très calmes. On voit un homme qui regarde Montréal du haut d'un belvédère, un paysage brumeux et enneigé, lui-même à l'air triste, sombre, abattu. Le narrateur, c'est lui.
Montréal, mon royal, mon réel, mon insupportable réalité. Je voudrais oublier ce qui s'est passé, tout oublier, t'effacer de ma mémoire. Mais comment renoncer à l'infinie douleur de t'avoir connu et perdu? Toi, sorti du néant, toi qui m'as possédé, toi qui m'as dépossédé, toi qui me laisses seul face à l'éternité. Toi qui m'as transmis le pire cadeau qu'un homme puisse recevoir.
Maniez-vous, il s'est pris une flèche!
Flèche?
Crise d'hostie, il pisse le sang! Il y a quelqu'un au bloc?
Je lui viens d'arriver.
Il est là, le doc. Il est en route.
Compresse, vite. C'est quoi son groupe sanguin?
La base de données du personnel. Comment ça marche, ce truc? Ah, voilà. Roy Cox.
Oh, oh, oh. Y a pas de oh. Y a que lui qui est oh. Y a pas de poche en réserve.
On n'est pas à l'hosto, les gars. Ciseaux, découper les vêtements. Pression artérielle. Perfusion, monitoring, ECG, trouver son pouls.
Comment on fait ?
Tenez, masque à oxygène, tensiomètre.
Je ne trouve pas son pouls.
On n'a pas le temps, je ne peux pas tout faire toute seule.
Ça pisse le sang. Dépêche, Julie.
Comprimer la plaie.
Qu'est-ce qu'il fout, le doc ?
On fait comment pour enlever ce truc-là ?
Ne touchez pas à ça. Posez les électrodes sur le thorax. Rouge à droite, jaune à gauche, verte sous l'aisselle gauche.
Poussez-vous. Oh, pas toi, bon sang. Déconne pas. Merde, merde, merde.
Monsieur Cox ? Monsieur Cox, s'il vous plaît.
Navré Nathan, son cœur s'est arrêté.
Voilà, donc le lecteur découvre effectivement le personnage sur la première case de l'album, et au bout de la troisième planche, le personnage est mort, Philippe Gauclair, donc c'est assez courageux, comme voilà, et donc on comprend évidemment que tout le reste de l'album, ça va être une sorte de flashback. C'est lui qui va continuer à être le narrateur, hein, mais enfin on revient évidemment avant sa mort, on aura le fin mot de l'histoire, j'espère dans le deuxième tome, parce que c'est prévu en deux tomes. Hein, voilà, alors c'est à travers donc ces mots effectivement qu'on découvre cette histoire assez incroyable. Il est donc on disait tout à l'heure, le prospecteur responsable du site de cette mine de diamants du Québec, et un beau jour, Philippe Gauclair, il y a une secousse qui ébranle la terre, un effondrement de terrain, pas très loin de l'exploitation de diamants. La secousse génère une faille qui donne accès à une cavité souterraine. Et au centre de cette cavité, nos héros vont faire une étonnante découverte. Allez, on peut dire, parce que c'est sur la couverture de l'album, on va pas le dire tout de suite, juste après la pause. Norwich Nan par les Cree Nation Artists dans VMDN sur RFI avec le BDiste Philippe Gauclair. Alors, fin du suspense, hein, cette découverte que Roy Cox, Nathan et leurs compagnons vont faire, Philippe Gauclair, dans cette cavité souterraine révélée par une secousse tellurique, c'est quoi ?
C'est une sphère géante qui est, on la découvre en couverture, mais on a fait exprès de garder la couverture très très sombre.
Oui. On se demande si elle est bleue, noire, elle est un peu entre les deux. Hein. Déjà au niveau de la couleur, c'est intéressant, parce que je vous avoue que c'est vraiment cette couleur très particulière là qui m'a donné envie d'entrer dans l'album.
Bah oui, parce qu'on sait pas si on est sous terre, on est dans l'eau. Il y a du bleu, il y a du noir. D'où provient ce matériau? Et en fait, de quoi elle est constituée?
Voilà, c'est tout l'enjeu. Voilà. C'est tout le suspense de cet album. Alors, c'est une aberration géologique. Évidemment, une sphère comme ça, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin bon, voilà, ça vient peut-être de notre monde. Alors, les scientifiques vont l'appeler l'OLNI, objet lithosphérique non identifié, en anglais, UGO, hein, comme le pendant de UFO, évidemment, comme les ovnis. Alors, on se demande quelles sont les propriétés, et ce qu'il faut faire, évidemment. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Il y a toute une série d'interrogations comme ça, scientifiques, En premier lieu, mais pas seulement. Tout est parti de votre imagination, Philippe Gauclair, sans révéler le fond, évidemment, de l'affaire. Ou, comme souvent en science-fiction, il y a une part de vérité dans les énigmes scientifiques que vous avez construites.
Ah non, il y a de l'influence, déjà. Une sphère géante, j'avais déjà eu l'occasion d'en côtoyer, non pas une, mais deux, en ayant lu La Nuit des Temps de Barjavel quand j'étais plus jeune, et La Sphère d'Or, d'où est tirée la Nuit des Temps. Et puis, je trouvais ça assez passionnant, l'idée que le futur nous vienne du passé. La découverte de ce qu'il y avait dans la sphère était un morceau de passé, mais qui avait tout l'air d'être futuriste. Et je trouvais que c'était déjà un premier paradoxe intéressant. Après, bon, bien sûr, j'ai fait mon chemin dans la science-fiction, j'ai lu plein d'autres trucs, j'ai eu plein d'autres influences, mais cette espèce d'intrigue a persisté, ce qui fait que quand je me suis posé des questions après la réalisation de Koralowski sur l'univers du pétrole, je me suis dit mais il y a un truc qui me tient toujours à cœur, j'aimerais bien raconter quelque chose sur le futur mais qui vient du passé. Et tout s'est mis en place progressivement, donc les influences digérées plus ou moins, enfin les allusions, les clins d'œil, et c'est exactement la définition que je pourrais donner de l'imagination. L'imagination, c'est de la mémoire juxtaposée, et tout le monde dispose d'imagination à condition d'avoir du bon scotch et de joindre des morceaux de sa propre mémoire en les collant bout à bout.
Donc une forme de puzzle, quoi.
Un puzzle, on fabrique son propre puzzle, on dit qu'on a de l'imagination, non, on a de la mémoire. C'est juste ça, c'est de se dire, je vais faire un assemblage.
Alors la mémoire, elle est un petit peu au cœur aussi du récit, d'ailleurs le premier tome s'appelle L'éternité, mais il y a des enjeux qui sont donc philosophiques, qui sont écologiques, qui sont politiques, financiers, commerciaux, médiatiques, judiciaires, aussi, puisque dès la cinquième planche de l'album, on apprend qu'il y a un juge qui a fourré son nez dans l'affaire. Ça va déclencher, donc, Philippe Gauclair, pas mal de passion. On va pas raconter les découvertes successives qui font vraiment partie du plaisir du lecteur. Il y a énormément de rebondissements, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la couleur, parce que l'une des spécificités de cet album, c'est que cet album a été réalisé en couleur directe. Alors, concrètement et techniquement, ça veut dire quoi? Couleur directe.
Alors, en bande dessinée, il y a un processus qui est très simple. Donc, on fait le dessin au crayon. Après, on le recopie au propre ou on passe de l'encre dessus.
Il y a un carnet de croquis à la fin.
Oui, voilà. Justement, donc on élabore. Mais en gros, le premier stade du rendu, c'est le trait au noir. Qu'on peut tout de suite transmettre à la photogravure pour te faire des pages qu'on va coloriser. Et après, on superposera un film noir avec le trait au noir et la mise en couleur en dessous. Et puis, il y a un autre processus aussi, c'est de faire naïvement, comme j'avais commencé la bande dessinée à Métal Hurlant, c'est de se dire, j'ai lu des BD et je pensais que c'était comme ça que ça se faisait.
D'accord, simplement.
C'est tout simplement. Donc, je pensais que il fallait tout faire en même temps, les textes, la couleur, etc. Et après, on m'a dit, ah non, mais tu connais ça, ce procédé, c'est la couleur directe. Donc je savais pas. Donc je me suis replongé parce qu'il y a quelque chose d'assez de beaucoup plus artisanal dans le contrôle de la chaîne de fabrication. On arrive au maximum de ce qu'on peut faire en tant que auteur artisan, c'est-à-dire tout, les textes, la mise en couleur, le noir, la mise en page.
Alors, il y a différents tons de bleu, et le bleu, il y en a partout, hein, sur les t-shirts, les jeans, les uniformes, les couleurs du logo de Sequoia, qui est la firme qui exploite la mine de diamants. Il y a la sphère elle-même, donc entre le bleu et le noir, il y a l'eau, il y a des drapeaux qui sont souvent bleus, il y a même les éléments techniques qui sont dans les salles, sont très souvent bleus. On a l'impression que le bleu, sans mauvais jeu de mots, est un peu le fil rouge de l'album, Philippe Gauclair.
Eh ben, c'est un très très bon jeu de mots, parce que c'est exactement la couleur qui va également dominer dans le deuxième épisode. Et on va vers un monde bleu. Et un monde bleu, c'est un monde de résolution. C'est un petit peu
de résolution au sens technique, informatique, vidéo du terme, ou au niveau
les problèmes qu'on
philosophique.
A. Tout, à tous les échelons. On va vers le bleu.
D'accord. Et vous jouez aussi avec les contrastes, avec le jaune aussi
Oui, ça c'est
dans l'album.
Absolument. C'était de temps en temps de mettre une couleur chantier.
Alors, il y a trois doubles pages qui rythment votre récit, Philippe Gauclair, trois doubles pages très différentes. Je voudrais que vous nous racontiez la troisième, celle qui est remplie de personnages avec des motos. On est lors d'une manifestation pour la défense des peuples autochtones. Comment est-ce que vous avez composé cette double page? Parce qu'on a vraiment l'impression d'un tableau.
Dans la perspective que je voulais faire à propos de Koralowski, c'était je voulais qu'il y ait dans le quatrième épisode qui s'est pas réalisé de Koralowski, il y avait une invasion de la Russie par l'Est par des gangs de motards. Je lui dis je reste avec cette idée de moto dans la neige. Et c'est amusant parce que la relectrice québécoise, en voyant cette image, dit ah ça c'est impossible, des motos dans la neige. Nous, on fait pas ça au Québec. Nous, ouais. On a des motoneiges, mais on n'a pas de moto dans la neige.
D'accord.
Et je l'avais répondu, pourquoi croyez-vous que je le fais en BD? C'est...
Voilà, donc dans mon histoire, je peux
faire rouler des motos dans la neige, et je trouvais que c'était intéressant de faire intervenir des gangs de bikers autochtones, indiens. Pour l'instant, ils sont juste présentés, c'est juste une factuelle, une mise en place, mais que je vais utiliser par la suite. Et je me suis rendu compte que peu à peu, je m'acheminais non pas vers un western, mais un northern, quelque chose qui se passe au nord, où il y aura les Indiens, Fort Apache, une espèce de fort, les militaires, la police, les mineurs. On a tous les ingrédients d'un western.
Et puis, il y a donc la deuxième double page, donc celle qui est à peu près au milieu de l'album. Alors là, on n'est plus du tout dans le western, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus onirique, on est presque dans la fantasy, Philippe Gauclair, graphiquement parlant.
C'est le rêve.
C'est la scène d'amour.
Ah oui, mais en fait, c'est le rêve obsessionnel, qui c'est pas voulu du personnage principal. Il rêve, il est ensorcelé par une femme sans visage, où le visage est toujours masqué. Et toutes les nuits, il rêve à cette femme sans visage. Donc je l'ai représenté un petit peu comme une espèce de tourment, un cyclone. On verra après dans le tome 2 que là il y a une espèce de logique dans le graphisme.
Voilà, donc ça en dit effectivement des petites indications, mais l'album est vraiment truffé de petites indications comme ça. Vous parliez de puzzle tout à l'heure pour bâtir votre construction imaginaire, c'est un petit peu ce que vous demandez au lecteur finalement.
En fait, je m'étais dit il y a un album que j'adorais quand j'étais gamin, c'était le Objectif Lune. Et on a marché sur la Lune.
Tintin.
Et pratiquement, Objectif Lune est plus intéressant qu'On a marché sur la Lune parce qu'il y a toute la préparation. Et je m'étais dit, dans cet album, je vais faire ça. Je vais rendre la préparation intéressante. Je vais essayer, de rendre la préparation intéressante. C'est-à-dire qu'on va tout déployer. On va tout mettre en place. On va remonter une espèce de mécanique en ouvrant des volets, en laissant des zones à décrire. Ce qui fait que les gens, au fur et à mesure où ils vont avancer dans la lecture, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui est mis en place, en fait.
Le temps est bon sur RFI, Bon Intendeur, reprise à succès du tube de la Québécoise Isabelle Pierre, sorti en 1971, VMDN, avec Philippe Gauclair qui publie L'Éternité, premier tome d'un diptyque intitulé Québec avec deux K. C'est aux éditions Daniel Maguen. On découvre d'ailleurs dans la dernière partie de l'album pourquoi Québec avec deux K. Un Québécois, un vrai, mais qui vit en France et qui est aussi un grand voyageur, un citoyen du monde, est également avec nous aujourd'hui. Bonjour Guy Delisle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au duplex des studios de France Bleu Héros à Montpellier. Vous aussi, vous êtes auteur de bande dessinée. On vous a déjà reçu dans cette émission pour le guide du mauvais père, pour votre album S'enfuir, récit d'un otage qui nous emmenait en Tchétchénie. On vous connaît justement pour vos récits de voyage à Shenzhen, Pyongyang, en Birmanie, pour vos chroniques de Jérusalem aussi, qui vous ont valu le Fauve d'Or 2012 au Festival d'Angoulême. Et vous venez de publier aux éditions L'Association un livre assez singulier que vous signez avec l'écrivain Jean Echenoz, prix Goncourt 99 pour ce roman Je m'en vais, prix Médicis 83 pour Cherokee. Alors ce n'est pas un roman, ce n'est pas un roman graphique non plus, c'est un carnet d'illustrations hein, au format à l'italienne, donc dans le sens de la largeur. Il est intitulé « Ici ou ailleurs ». Alors j'explique à nos auditeurs comment ça se présente. Sur chaque page de gauche, il y a les mots de Jean Echenoz, de courts extraits de ses livres déjà publiés qui évoquent des lieux, la plupart du temps des rues, des avenues, des boulevards, mais pas seulement, la plupart du temps à Paris, mais là aussi pas seulement. Et sur chaque page de droite, il y a les illustrations qui correspondent au texte et que vous signez, Guy Delisle. Vous nous racontez pour commencer comment est né ce projet ?
Alors, il y a, au festival Oh les beaux jours à Marseille, qui est un festival de littérature, je devais faire une rencontre avec Jean Echenoz. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'avais lu tous ses livres, donc j'étais ravi de faire cette rencontre. Et pour la préparer, on s'était dit que je pourrais peut-être faire quelques livres. On avait d'abord évoqué peut-être le fait d'illustrer des couvertures, ça m'intéressait pas des masses. Et comme je connaissais le travail de Jean Echenoz, et je savais qu'il a vraiment une écriture géographique, il aime placer les lieux, les noms de rues, et tout de suite je me suis dit, ah ben voilà, je préfère des croquis en me basant sur les noms de rues qu'il mentionne, parce que il le fait dans presque chaque album, et de me promener comme ça d'une façon géographique dans ses livres, et de les illustrer. Bon, ça devait être, on avait pensé à faire une expo qui s'est pas fait, oui. Et au final, pour la présentation, je me suis un peu emballé et j'ai fait pas mal de dessins, donc une quarantaine. Et à un moment, pour la présentation, c'était très bien. Et oui. On s'est dit, ça serait chouette de le garder sous un format. Et voilà, on s'est dit, pourquoi pas un livre.
Bon, et ce que vous ignoriez à l'époque, c'est que lui-même, Jean Echenoz, vous avez lu que c'est un petit peu la Corée du Nord qui a été un petit peu le premier lien entre vous deux.
Voilà, c'est ce qui nous a amené à faire une rencontre ensemble, c'est-à-dire que on m'avait posé des questions sur le dernier livre que j'avais lu. J'avais parlé de c'était Envoyé spécial, ouais, où dans le dernier livre de Jean Echenoz où il s'en va en Corée du Nord, et j'avais trouvé que c'était particulièrement bien vu, que je ressentais moi pas mal de trucs que j'avais vus en Corée du Nord, et surtout une ambiance qui décrit très bien. Et suite à ce petit article, il m'avait écrit un petit mot très gentil en disant que d'ailleurs il avait lu Pyongyang pour s'informer un peu sur la Corée du Nord, et suite à ça c'était assez rigolo, on s'était écrit un peu et on avait eu l'idée parce qu'on nous avait demandé de faire une rencontre à Marseille.
Oui, ça va même plus loin que ça, parce que vous êtes un petit peu modeste. Jean Echenoz a quand même dit qu'il n'était jamais allé sur place lui-même en Corée du Nord et que ses décors ont été largement inspirés par Pyongyang. On peut
ouais,
dire ça.
Ça m'étonne un peu parce qu'il est assez connu pour être très. Il voyage beaucoup. Quand il parle d'un endroit, il le creuse. Mais bon, la Corée du Nord, c'est un peu spécial, évidemment.
Oui.
Aller se promener sur la zone démilitarisée, c'est juste pas possible. Donc voilà, il fallait qu'il s'inspire de bouquins.
Alors c'est Jean Echenoz qui signe la préface de ce carnet de dessins, et il explique dans cette préface l'importance des décors dans un roman. Et il dit ceci. Il dit c'est souvent leur banalité qui les rend précieux. Est-ce que vous êtes d'accord, Guy Delisle ?
Ah ben là, c'est son travail à lui, son travail d'auteur. Il a une façon de travailler qui est très particulière. Pour le dessin, c'est différent. Moi, je me suis inspiré de ses textes et puis j'allais me balader là-dedans. Et ça me permettait de relire d'ailleurs des extraits de Echenoz et de voir à quel point la façon dont il écrit chaque phrase est tellement bien rythmée. Ça tombe tellement bien avec toujours très très élégant, de me promener là-dedans et de le dessiner. Après, sa méthode de travail est sûrement très différente de la mienne.
Mais quand il dit que un décor qui marque, un décor précieux, c'est un décor banal. Comment est-ce que vous concevez ce mot de banal ?
Bah, c'est sûr que moi, c'est pareil, quand on, j'imagine que quand je me balade à Jérusalem où j'ai fait pas mal de croquis, bah, il y a des endroits qui sont très connus et c'est pas les premiers que j'ai envie de dessiner. Mmh. Je pense que ça me ferait la même chose de dessiner les grandes pyramides, ça me passionnerait pas des masses, mais tout ce qui tourne alentour, les petits détails, les petites observations, ça, par exemple, ça me paraît souvent beaucoup plus exotique et j'aime bien fonctionner avec des petits détails, des petites observations et de cette façon-là, je pourrais me rapprocher de ce que dit Jean Echenoz.
Alors justement, expliquez-nous un petit peu votre technique. Avec quel œil est-ce que vous regardez un décor dans lequel vous vous trouvez, Guy Delisle ? Il y a une technique, bah, il y a une façon de préparer son œil ?
Ah bah quand on fait du croquis, on peut tout faire. En fait, là, c'était assez différent comme travail parce que je me basais sur un nom de rue, par exemple la rue de Rome, la rue d'Amsterdam à Paris. Donc voilà, il fallait que je me balade dans la rue, que j'observe un coin qui m'intéresse, quelque chose qui me parle un peu. Après, juste un point de vue en perspective, c'est pas très parlant, donc il fallait que je trouve quelque chose qui parle un peu plus de la rue ou qui est. C'est une question de volume. Donc voilà, il faut trouver un volume qui parle un peu parce qu'une façade à plat, c'est pas très rigolo.
Mais vous êtes allé sur place à chaque fois ou bien les mots de Jean Echenoz vous ont suffi pour dessiner ?
Les mots de Jean Echenoz m'ont suffi et Google Street View m'a beaucoup aidé.
Ah d'accord.
Parce
qu'on vous imagine sur le trottoir avec votre petit carnet, ça s'est pas du tout passé comme ça en fait.
Non, c'est ce que je fais souvent. En fait, ça aurait été un plaisir de le faire. Mais il y avait une question de temps aussi. Et puis en février, dessiner dans les rues de Paris quand il pleut, donc c'est pas évident. Et il se trouve qu'il y a pas mal d'outils. Hein. Il y a des photos. On peut se baser sur des livres de photos. Google Street View, c'est comme un gros livre de photos. Et franchement, il y a quelques défauts, mais on a l'avantage d'être dans un point de vue qu'on n'a pas souvent quand on fait des croquis sur le trottoir, c'est-à-dire dans le milieu de la rue. Et ça, c'est pour un rond-point, par exemple, c'est quand même assez précieux.
Alors, vous expliquiez à l'instant, Guy Delisle, que vous avez dessiné la rue de Rome à partir des deux lignes du roman Lac de Jean Echenoz. Voici les deux lignes en question.
En contrebas de la rue de Rome, la Micheline de Dieppe croisait un train corail pour Caen.
Alors, quand on entend ça, quand on lit, on entend les trains. Et surprise, Guy Delisle, il n'y a aucun train sur votre dessin.
Non, c'était surtout la rue qui m'intéressait parce que le livre est basé sur les noms de rue. Donc il y en a qui sont en contrebas, il faut les entendre dans le dessin.
Voilà, mais il faut pas les voir. Pourquoi vous n'avez pas voulu dessiner justement la Micheline de Dieppe et le train corail? En plus, ce sont deux trains complètement différents graphiquement parlant, c'était pas tendant.
Voilà, évidemment, oui, ça aurait été simple de prendre une référence et puis dessiner une Micheline, surtout qui sont très jolies.
Bah oui.
Mais je voulais être au niveau du trottoir, en fait, comme les gens qui se baladent dans la rue, un peu comme Jean Echenoz quand il se promène et qu'il observe des noms de rue et qu'il observe des bouts de décor qui l'intéressent. C'est pas nécessairement la Micheline, mais c'est plus la rue avec ce qu'elle évoque, les bruits, les sons de train. Et voilà, je voulais plutôt être à ce niveau-là et qu'ils soient tous dans l'architecture, pas nécessairement sur un mot dans la phrase. Ça me paraissait un peu trop souligner le texte, j'avais pas trop envie de ça.
Pas de personnage non plus?
Non, c'est pas nécessaire, parce que là on était dans le décor, puis en plus moi j'ai une attirance pour les architectures, dessiner des gens dedans, pourquoi pas, mais ce qui est chouette quand on fait du croquis, c'est qu'on dessine quand il y a un truc qui nous embête, un arbre, un bout de fil électrique ou un paquet de trucs qu'on n'a pas envie de mettre, hop, ça disparaît très facilement, donc les piétons et les voitures aussi, il n'y a pas de voiture non plus.
Non, effectivement. Alors Philippe Gauclair, vous avez été, je le disais en introduction, illustrateur hein, dans votre première vie, dans Je Bouquine, au journal de Mickey, entre autres. On est très très loin du style de Guy Delisle, mais quand même au niveau de la façon dont on pense un dessin, dont on, le mot est peut-être pas très joli, mais dont on complète un texte, enfin dont on agit en tout cas en interaction avec un texte graphiquement parlant, comment est-ce que vous fonctionniez? Est-ce que votre façon de travailler était sensiblement la même ou est-ce qu'elle était complètement différente?
Complètement, c'est une composition, on élimine, on rapporte des choses, ou on éjecte des choses. Ça se fait assez naturellement, selon notre affinité. Parfois même, c'est inconscient. On déplace des éléments sans avoir la sensation de les déplacer. On a l'impression que c'est qu'on fait de l'authentique, mais en fait, on fait de la recréation. C'est notre manière de digérer l'espace. Sinon, une photo est suffisante.
Illustrateur et dessinateur de BD, ce sont deux métiers qui n'ont rien à voir?
Si, c'est le même niveau de concentration, mais c'est vrai quand on anime un récit, on pense toujours à l'image d'avant, l'image d'après, on est dans la narration,
dans la progression du récit, oui.
Et on a tendance dans l'illustration à essayer de masser le maximum d'ingrédients de ce que peut contenir le récit qui est justement sans image. Donc il y a ce défaut là qu'on peut avoir, c'est de trop vouloir en dire, et il faut quand même éliminer des choses.
Oui, c'est ça le piège effectivement, Guy Delisle, sur une illustration, vouloir en faire trop. Est-ce que vous, au contraire, vous essayez pas un peu de délaguer aussi?
Oui, ça m'a... après des illustrations, moi j'en fais pas beaucoup, j'ai surtout fait de la bande dessinée, et il y a une différence aussi entre le croquis quand on est assis au coin d'une rue et qu'on fait une bande dessinée, et là quand on est dans la narration, c'est pas le même genre de dessin, et la joie du dessin n'est pas la même non plus, en fait, de faire une planche de bande dessinée, c'est pas la même chose que d'être assis dans un coin de rue à Jérusalem et puis de dessiner un coin de rue qui nous passionne. À ce moment-là, oui, c'est le même fonctionnement, il y a des trucs qui nous intéressent pas qu'on enlève, on se concentre aussi parce que le croquis c'est un sujet, donc il y a une partie d'un bâtiment qui nous intéresse qui sera un peu le sujet principal, et alentour se construit le reste de l'image. Mais il faut savoir choisir.
Alors, le premier dessin de ce carnet, c'est un café qui se trouve à Paris, rue de Rivoli, le café Benjamin. Et voici le texte qui l'accompagne.
Il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui, ni chez lui, ni dans aucune banque. Bref, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il trouva la rue de Rivoli et la suivit jusqu'au Palais Royal.
Alors, je suis obligé de vous poser la question, Guy Delisle. Pourquoi le café? Pourquoi ce café-là? Elle est quand même très très longue, la rue de Rivoli.
Oui, il y aura eu plein de choses à dessiner dessus. Je crois que d'ailleurs, je l'ai fait deux fois, parce qu'il la mentionne. Il a tendance à mentionner les mêmes rues. Je sais que la rue de Rome, elle est là dans plusieurs de ses albums. C'est assez fascinant, d'ailleurs, de creuser comme ça plusieurs livres. En fait, l'album retrace tous ses livres, donc ils sont tous là, du premier au dernier.
Oui.
Dans la rue de Rivoli, ouais, il y aurait eu mille trucs à dessiner. Il se trouve que ce café-là, je me dis, tiens, celui-là, il est assez cocasse, et il est beau. Et voilà, je me dis, tiens, je vais le tenter. Et ça a tombé, j'ai dit je vais le garder.
Mais c'est vous qui avez décidé des lieux que vous alliez dessiner? Vous avez discuté avec Jean Echenoz ou pas du tout? Comment ça s'est passé?
Non, j'avais parlé de l'idée d'illustrer des textes, et je lui envoyais des dessins de temps en temps. Il était ravi, il adorait cette démarche, et non, c'était vraiment moi de mon côté qui faisais ça, et je lui envoyais, ça lui faisait plaisir, mais il n'y avait pas de retour sur quoi choisir ou autre, parce que de toute façon, c'était assez clair comme démarche, donc je prenais des extraits de ses livres, et puis je faisais un petit dessin par rapport à la rue qu'il mentionnait, donc ouais, il n'y avait pas à faire d'aller-retour.
Tristesse berce mes yeux. Mon cœur est gris, mon cœur est bleu. Je ne pourrais pas être heureux. Non, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me dise je t'aime.
Voilà, un petit clin d'œil avec Eric Chardin. Le monde est gris, le monde est bleu. Et je sais pas si vous avez compris pourquoi j'avais choisi cette chanson, Guy Delisle, parce que dans cet album, dans ce carnet, ici ou ailleurs, avec Jean Echenoz aux éditions L'Association, eh bien, j'avais vraiment envie, en le parcourant, de vous poser la question. Pour vous, le monde est gris ou le monde est bleu? Parce que la couleur qui imprègne les lieux que vous dessinez, on est justement entre le gris et le bleu. Alors, c'est du gris ou c'est du bleu pour vous, Guy Delisle?
Ma foi, peu importe.
Attendez, quand vous avez
plutôt bleu, je crois.
Plutôt bleu, mais vous l'avez façonné, votre couleur, vous l'avez choisi, vous l'avez peut-être même fabriqué vous-même, non?
Oui, c'est une référence Pantone quand elle est cherchée. Après, ils écrivent pas dessus le nom de la couleur. Il y a une référence en numéro.
D'accord.
Pour moi, elle tend plus vers le bleu. Donc,
mais après, pourquoi vous avez choisi?
C'était le fait de faire, une bicro, d'avoir quelque chose de très très simple au dessin et à la couleur aussi, comme l'est d'ailleurs le texte de Jean Echenoz, qui est toujours quelque chose de très très simple dans le texte, très très ramassé,
surtout, oui, très minimaliste, très dit-on.
Oui, voilà, donc je voulais un dessin qui correspond. En fait, c'est pas que je voulais, c'est avec mon dessin naturellement est un peu comme ça, donc je trouvais que c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien les romans de Jean Echenoz, parce que quelque part on a des affinités. Moi, c'est au niveau du dessin, lui c'est au niveau du texte.
Alors, j'aurais peut-être un petit peu plus de chance avec Philippe Gauclair, votre bleu à vous. Comment est-ce que vous l'avez façonné, comment est-ce que vous l'avez choisi, parce que je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une marque très importante non seulement pour l'atmosphère, mais peut-être même pour le récit lui-même dans l'album Québec.
Oui, parce que le Grand Nord, on l'associe toujours à la glace, au froid, donc à une couleur froide. Et la plupart des photos, des images qu'on voit du Grand Nord ne sont pas forcément dans les bleus. Il y a énormément de teintes. Donc je me suis réservé le bleu. Là, c'est une dominante particulière qui sert un peu d'image de marque aussi, et parce que sinon on n'arrive pas à se concentrer. Et puis, j'avais cet objectif dans l'album suivant, dans la deuxième partie de l'histoire, de justifier la présence de tout ce bleu.
Donc on sera dans le deuxième tome qui est prévu pour.
Je pense entre mai et août prochain.
Voilà, rendez-vous est déjà pris. Une dernière chose, Guy Delisle, parce que c'est vrai que ça peut être étonnant à l'époque que nous vivons, dans Ici ou ailleurs, les mots de Jean Echenoz, ils sont écrits à la main. Cette typographie manuelle, une typographie très, très régulière aussi, c'est un dessin pour vous?
Ah oui, moi j'aime bien faire la typo à la main, parce que c'est à peu près le seul endroit maintenant dans les bandes dessinées où on voit une écriture manuelle. Même dans certaines typos de bandes dessinées, ils sont machines. Donc ouais, ça me plaît bien. Quelque part, oui, c'est un peu l'écho du dessin qui est à droite, c'est le dessin du texte. Et ça je trouve ça graphiquement plaisant à voir.
Philippe Gauclair, le lettrage, comme on dit, hein, dans la bande dessinée, pour certains dessinateurs, c'est un peu une corvée. Pour vous aussi, vous parliez du côté artisanal de...
Oui. Non, ça fait partie de la partie intéressante qui est agréable, qui compte, même si maintenant effectivement grâce à l'informatique on peut avoir un alphabet qu'on peut reproduire. Enfin moi j'ai pas fait ça, j'ai tout réécrit et j'ai tout écrit sur des pages à part. Donc ça a été monté ultérieurement, mais j'ai tout écrit à la main, parce qu'il y a un plaisir de l'écriture manuelle.
Merci beaucoup à tous les deux, Guy Delisle avec Jean Echenoz, Ici ou ailleurs, aux éditions L'Association Philippe Gauclair, Québec, l'éternité, tome 1, aux éditions Daniel Magan. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre du tome 2, ou c'est encore top secret?
Un monde bleu.
Un monde bleu, voilà, très bien. Merci également à France Bleu Montpellier qui nous a permis d'avoir Guy Delisle dans les meilleures conditions techniques possibles. Et puis félicitations à nos 5 gagnants du jeu d'hier dans VMDN. Intagrist El Ansari de Nouakchott en Mauritanie, Daniel Sossou de Godomé au Bénin, Raphaël Mehdi Zemba de Kinshasa en République démocratique du Congo, Mohamed Ahmed Issa de Djibouti et Rudy Tabalo de Lumumbashi en République démocratique du Congo également. Ils ont été les premiers à donner la bonne réponse à la question que je vous ai posée dans l'émission d'hier. La bonne réponse était Cochise, et donc ces 5 auditeurs vont recevoir tous les 5 chacun le nouveau roman d'Abdourahmane Waberi paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Un grand bravo à eux. Rendez-vous demain pour un nouveau jeu.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et on va retourner au Québec pour terminer cette émission. Alors pas en EU, East Cheap et James, mais à Québec, puisque jusqu'au 8 septembre, le Musée national des beaux-arts du Québec accueille une exposition sur l'œuvre du peintre et sculpteur catalan Joan Miró, qui lui aussi affectionnait particulièrement le bleu. Les visiteurs peuvent découvrir 200 peintures, sculptures, dont de nombreuses toiles de grand format, toutes exécutées dans son atelier de Majorque au Baléares en Espagne, évidemment, des créations de la maturité qui viennent de la fondation Miró à Majorque, réalisées entre 1956 et 1981, et qui témoignent de la grande liberté d'esprit de l'artiste. Pascal Guéricola est notre correspondant à Québec.
Lorsque Joan Miró arrive à Majorque, une île des Baléares, ce peintre marqué par le surréalisme jouit déjà d'une grande réputation. Il se fait bâtir pour la première fois un atelier adapté à ses besoins, largement ouvert sur la nature. La beauté de l'île le libère peu à peu des formes, mais ses thèmes de cœur demeurent, comme les femmes, les oiseaux, le ciel. Majorque le rapproche de l'essence du trait. Bref, sa création mûrit, comme le raconte son petit-fils, l'historien de l'art, Joan Pugné Miró.
Il était un homme qu'il détestait être prévisible et il détestait être répétitif. Donc il a tout cassé tout le temps pour se refaire à nouveau. Parce que quand si on devient un vieil homme de 80 ans, retraité, milliardaire à Mallorca, ça n'a aucune philosophie qui intéresse personne. Et Miró était un homme de l'attaque.
Pendant les quatre premières années de son arrivée à Mallorca, Miró passe en revue tout ce qu'il a déjà créé avant. Puis il se lance, quitte à revenir sur certaines toiles, comme l'explique le conservateur André Gilbert, à l'origine de cette exposition.
Une autre œuvre qui est fascinante dans l'expo, c'est le tout premier paysage que Miró a peint en 1908. Il a à peine 15 ans. Et en 1960, 42 ans plus tard, il repeint par-dessus un nouveau paysage dans sa nouvelle manière. On a donc les deux manières, la manière de jeunesse et la manière de maturité, qui se superposent les unes des autres pour se fondre dans une seule œuvre. Moi, je trouve que c'est magnifique comme démarche de se remettre en question comme ça soi-même.
De plus en plus libre de ses mouvements, le peintre travaille au sol sur ses grands formats, en laissant le geste guider sa création. Les parfums, les fleurs, les oiseaux du Nil qu'il arpente tous les jours l'inspirent également beaucoup. André Gilbert.
Dans la première section, on a plusieurs paysages, je dirais, qui sont des paysages un peu plus classiques, même s'ils sont très, très audacieux, d'une certaine manière. Je trouve qu'on sent bien le lien à la terre, à la nature, à la vie des animaux, des plantes.
Vous pensez à quel tableau particulièrement?
Le plus grand de la première salle, celui où on a vraiment le ciel et la terre vus en miroir, comme s'ils étaient vus en miroir à travers la ligne d'horizon. Je trouve que c'est un tableau très émouvant. Il y a une paire de tableaux. Il y en a un qui est entièrement noir et l'autre qui est jaune. Et les deux ensemble, là, ils ont un impact très fort à mon goût.
À Mallorca, Miró se rapproche des formes primitives, de l'art précolombien. Ses voyages au Japon l'ouvrent à la calligraphie, à la notion du vide, aux déclinaisons du noir d'encre. Plusieurs des toiles et des dessins de ce grand artiste en témoignent, tandis qu'un film nous le présente dans son atelier.
Le voyage est terminé. Il est enfin seul dans son grand atelier si longuement désiré. Entouré de châssis en attente, de toiles en cours, de centaines de dessins, de livres de poèmes, d'outils de travail et de fétiches chargés d'histoire. Il travaille simultanément et avec des grands intervalles à diverses de ses œuvres. Plus jeune et plus libre que jamais, l'artiste se recueille dans son atelier et finalement, à presque 70 ans, voit son rêve réalisé.
Plongé dans l'atmosphère créatrice qui règne alors chez le peintre à Mallorca, les visiteurs prennent conscience avec cette exposition de la force de son travail alors qu'il aborde le dernier tiers de sa vie.
Reportage de Pascal Guéricola pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec la romancière Jeanne Benamor pour un roman de l'exil intitulé « Ceux qui partent ». Il est paru chez Actes Sud et il nous transporte à Ellis Island, qui est la petite île qui se trouve juste à côté de l'île qui supporte la statue de la liberté à New York, qui est la porte d'entrée en fait de l'immigration américaine. L'histoire se passe en 1910. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous qui nous écoutez pourrez gagner 4 exemplaires de ce roman de la rentrée, à nouveau en répondant sur la page Facebook de l'émission, en message privé, hein, en message privé uniquement, c'est très très important, à la question que je vous poserai demain à l'antenne. Rendez-vous donc demain. Et vous m'en direz des nouvelles.
Vous voulez que je sois un dieu. Si vous saviez comme je me sens vieux. Je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut.